Radio, première partie, chapitre 8. Un escalier clair, large et propre conduisait au logement de Gagnat, qui était situé au troisième étage et se composait de 6 ou 7 pièces, les unes grandes, les autres petites. Sans rien avoir d'extraordinaire, cet appartement dépassait, en tout cas, les moyens d'un employé chargé de famille, en supposant même à ce dernier un traitement de 2000 roubles. Mais Gagnat et les siens n'étaient installés là que depuis 2 mois, et ils avaient choisi ce local exprès pour pouvoir y héberger des pensionnaires. Cette résolution avait été prise sur les instances de Nina Alexandrovna et de Barbara Ardalionovna, qui voulaient se rendre utiles et contribuer, dans quelque mesure, aux ressources du ménage. Gagnat trouvait qu'il était de très mauvais ton de louer des chambres. Aussi avait-il combattu de tout son pouvoir le projet de sa mère et de sa sœur. Mais il avait dû s'incliner devant le désir formel des 2 femmes. Et, depuis lors, quand le jeune homme allait dans le monde, son amour-propre souffrait cruellement. Toutes ces concessions à la nécessité étaient pour lui de profondes blessures morales. Les moindres niaiseries l'irritaient à l'excès, et si, pour le moment, il consentait encore à accepter la situation, c'était seulement parce qu'il était décidé à la modifier du tout au tout dans le plus bref délai. Mais le moyen qu'il avait en vue pour faire cesser cet état de choses constituait lui-même un gros problème dont la solution risquait de susciter à Gagnat des ennuis pires que les précédents. Le logis était coupé en 2 par un corridor qui commençait à partir de l'antichambre. D'un côté se trouvaient les 3 pièces qu'on louait à des personnes particulièrement recommandées. Il y avait en outre sur le même rang, tout au bout du corridor, près de la cuisine, une 4e pièce, celle-ci plus petite que les autres, dans laquelle logeait le général Ivolgin lui-même, le chef de la famille. Il couchait là sur un large divan. Pour entrer dans l'appartement ou pour en sortir, il était obligé de passer par la cuisine et de prendre l'escalier de service. En même temps, ce réduit servait de chambre à Kolia, le jeune frère de Gabriel Ardalionovitch. C'était là que ce collégien de 13 ans faisait ses devoirs. C'était là qu'il dormait sur un vieux divan, petit, étroit et couvert d'un drap troué. Mais la principale tâche de l'enfant consistait à avoir l'œil sur son père, qui de jour en jour avait plus besoin d'être surveillé. On donna au prince la chambre du milieu, située entre celle de Ferdichtchenko à droite et une pièce encore inoccupée à gauche. Auparavant, Gagnat introduisit Mishkin dans la partie de l'appartement que les Ivolgin s'étaient réservée. Le logement particulier de la famille se composait de 3 pièces. Une salle qui se transformait, quand il le fallait, en salle à manger. Un salon qui, le soir venu, servait à Gagnat de cabinet et de chambre à coucher. Enfin, une petite pièce, toujours fermée, où couchaient Nina Alexandrovna et Barbara Ardalionovna. En un mot, on était excessivement à l'étroit dans ce local. Gagnat se contentait de bougonner à part soi. Quoiqu'il fût et voulût être respectueux pour sa mère, on pouvait s'apercevoir à première vue qu'il était le grand despote de la famille. Nina Alexandrovna n'était pas seule au salon. Avec elle se trouvait Barbara Ardalionovna. Elles s'occupaient toutes deux d'un ouvrage de femme en causant avec un visiteur, Ivan Petrovitch Tidzin. Nina Alexandrovna, qui paraissait âgée de 50 ans, avait un visage maigre et défait. Un cercle noir était très marqué au-dessous de ses yeux. Quoiqu'elle eût l'air maladif et un peu triste, sa physionomie et son regard étaient assez agréables. dès ses premières paroles, se révélait un caractère sérieux et plein d'une véritable dignité. Nonobstant sa mine affligée, on pressentait en elle de la fermeté et même de la résolution. Vêtue fort modestement, tout à fait comme une vieille femme, elle portait une robe de couleur sombre. Mais son maintien, sa conversation, l'ensemble de ses manières prouvaient qu'elle avait vécu dans la meilleure société. Barbara Ardalionovna avait 23 ans. Assez maigre, de taille moyenne, elle était dotée d'un de ces visages qui, sans être précisément beaux, ont néanmoins le privilège de plaire et même de fasciner presque à l'égal de la beauté. Cette demoiselle ressemblait fort à sa mère, aussi bien physiquement que dans sa mise, car elle n'aimait pas du tout à faire de la toilette. Le regard de ses yeux gris pouvait parfois être très gai et très affable, mais le plus souvent il était sérieux et pensif. Depuis quelque temps surtout, la physionomie de la jeune fille avait pris une expression particulièrement soucieuse. La fermeté et la résolution se lisaient sur son visage, comme sur celui de Nina Alexandrovna. Mais on devinait chez la fille un caractère plus énergique encore et plus entreprenant que chez la mère. Barbara Ardalionovna s'emportait assez facilement, et son frère lui-même avait parfois une certaine peur de sa colère. Quelqu'un qui la craignait aussi, c'était Ivan Petrovitch Ptidzine, maintenant en visite chez les dames Ivolgin. Ce monsieur approchait de la trentaine. Il était vêtu avec une élégante simplicité, et ses façons étaient agréables, bien qu'un peu compassées. Nonobstant la gravité de ses manières, on ne pouvait le prendre pour un fonctionnaire public, car il portait une petite barbe châtain. Il savait causer avec esprit et agrément, mais d'ordinaire il parlait peu. En général, l'impression qu'il produisait lui était favorable. Il éprouvait évidemment autre chose que de l'indifférence pour Barbara Ardalionovna, et il ne faisait pas mystère de ses sentiments. La jeune fille, de son côté, le traitait en ami, sans toutefois répondre encore à certaines questions qu'il lui avait posées et dont elle s'était même montrée mécontente. Cela, du reste, n'avait nullement découragé Ptidzine. Nina Alexandrovna l'accueillait avec beaucoup d'amabilité, et depuis quelque temps lui témoignait une grande confiance. On savait d'ailleurs qu'il exerçait la profession de prêteur sur gage. Il était fort lié avec Gania. Ce dernier souhaita un bonjour très sec à sa mère, ne dit pas une parole à sa sœur, et se hâta d'emmener Ptidzine hors du salon. Avant de se retirer, Gania présenta le prince en quelques mots saccadés, mais suffisamment explicites. Nina Alexandrovna fit un aimable accueil à Mushkine, et, apercevant Kolia qui venait d'entrebâiller la porte, elle lui ordonna de conduire le locataire à la chambre du milieu. Kolia était un jeune garçon, au visage souriant et assez joli. Ses manières franches et naïves respiraient la confiance. « Où est donc votre bagage ? » demanda-t-il en introduisant le prince dans la chambre. « J'ai un petit paquet, je l'ai laissé dans l'antichambre. Je vais vous le chercher. Nous n'avons, en fait, de domestique que la cuisinière et Matrena, de sorte que je m'occupe aussi du service. Varia nous surveille tous et gronde. « Vous êtes arrivé de Suisse aujourd'hui ? À ce que dit Gania ? » ?»«
Oui. »«
C'est beau, la Suisse ?»
« Fort beau. »«
Il y a des montagnes ?»«
Oui. »«
Je vous apporte à l'instant vos paquets. »
Entra Barbara Ardalionovna. « Matrena va mettre des draps à votre lit. Vous avez une malle ?»«
Non, un petit paquet. Votre frère est allé le chercher. Il est dans l'antichambre. »«
Il n'y a là aucun paquet, sauf ce petit ici. Où avez-vous mis vos bagages ?»
demanda Kolia de retour dans la chambre.
« Mais je n'en ai pas d'autre que celui-là, » répondit le prince en prenant son minuscule paquet.
« Ah ! Je me demandais si Ferdichtchenko ne les avait pas subtilisés.
Ne dis pas de sottises,
fit sévèrement Varia, qui parlait aussi au prince d'un ton fort sec et à peine poli.
Chère Babette, tu pourrais me parler plus gentiment. Je ne suis pas petite Zine, moi, tu sais.
On pourrait encore te donner le fouet, Kolia, tant tu es encore bête.
Pour tout ce dont vous aurez besoin, vous pouvez vous adresser à Matrena. On dîne à 4h30. Vous pouvez dîner avec nous ou vous faire servir dans votre chambre. C'est comme vous voudrez. Allons, viens, Kolia, ne le dérange pas.
Je m'en vais. Quel caractère décidé!
Au moment où ils se retiraient, ils se croisèrent avec Gania.
Le père est à la maison?
Demanda-t-il à Kolia. Et celui-ci ayant répondu affirmativement, son frère lui dit quelque chose à l'oreille. Kolia inclina la tête et sortit à la suite de Barbara Ardalionovna.
Deux mots, prince. J'avais oublié de vous parler au sujet de ces affaires. J'ai une demande à vous adresser. Si ce n'est pas vous imposer une trop grande gêne, veuillez, je vous prie, ne pas ébruiter ici ce qui s'est passé tout à l'heure entre moi et Aglaé, et ne pas raconter là ce que vous trouverez ici. Car ici aussi, il y a pas mal de vilaines choses. Du reste, je m'en moque. Aujourd'hui, du moins, tâchez de ne pas bavarder.
Je vous assure que j'ai beaucoup moins bavardé que vous ne le croyez, dit le prince, un peu blessé des reproches de Gania. Les rapports entre les deux jeunes gens ne s'amélioraient pas, au contraire.
Eh bien, mais vous m'avez déjà attiré assez de désagréments aujourd'hui. En un mot, c'est une prière que je vous adresse.
Notez encore ceci, Gabriel Ardalionovitch, que tantôt je ne m'étais nullement engagé au silence. Pourquoi donc ne pouvais-je pas parler du portrait? Vous ne m'aviez pas prié de me taire à ce sujet.
Oh, quelle affreuse chambre!
Observa Gania en promenant autour de lui un regard méprisant.
On n'y voit pas clair et les fenêtres donnent sur la cour. À tous les égards, vous arrivez mal à propos chez nous.
Du reste, ce n'est pas mon affaire. Je ne m'occupe pas de la location des chambres.
Petite Zine vint appeler Gania. Ce dernier quitta aussitôt le prince. Il aurait pourtant voulu dire encore quelque chose, mais une sorte de honte l'avait retenu. Il se sentait embarrassé, et c'était sans doute pour se donner une contenance qu'il avait maugréée contre la chambre. Le prince venait à peine de se lever et de faire un bout de toilette lorsque sa porte s'ouvrit pour laisser apparaître un nouveau personnage. C'était un monsieur de 30 ans, plutôt grand que petit, dont les larges épaules supportaient une énorme tête frisée et roussâtre. Il avait un visage rouge et charnu, des lèvres épaisses, un nez large et aplati, de petits yeux moqueurs qui semblaient toujours adresser des signes d'intelligence à quelqu'un. En somme, l'impudence dominait dans cette physionomie. Les vêtements du nouveau venu étaient assez malpropres. Il avait commencé par entrebâiller la porte, juste assez pour pouvoir passer sa tête par l'ouverture. Allongeant le cou, il examina la chambre durant 5 secondes. Puis, lentement, la porte s'ouvrit toute grande et sur le seuil apparut en pied le visiteur. Mais celui-ci n'entra pas tout de suite et il continua à observer le prince en clignant les yeux. À la fin, il ferma la porte derrière lui, s'approcha, prit une chaise et, saisissant avec force le bras du prince, obligea ce dernier à s'asseoir sur le divan.
Ferdichtchenko, fit-il, tandis qu'il attachait sur Mushkin un regard sondeur.
« Eh bien, quoi ? »
demanda le prince presque gaiement. « Un locataire, » reprit Ferdichtchenko, les yeux toujours fixés sur le nouvel hôte des Ivolgin. « Vous voulez faire connaissance avec moi ?»«
Hé !» proféra le visiteur en ébouriffant ses cheveux et en soupirant.
Après quoi il se mit à regarder dans le coin opposé.
« Vous avez de l'argent ? » ajouta-t-il soudain.
« Un peu. Combien, au juste ?
25 roubles.
Montrez.
Le prince prit son billet de 25 roubles dans la poche de son gilet et le passa à Ferdichtchenko. Celui-ci le déplia, l'examina, le retourna dans l'autre sens et ensuite l'exposa au jour.
« C'est assez étrange, » remarqua-t-il d'un air songeur. « Je me demande pourquoi ils brunissent. Il y a de ces billets de 25 roubles qui deviennent très foncés, tandis que d'autres, au contraire, se décolorent complètement.
Tenez. »
Le prince reprit son billet. Ferdichtchenko se leva.
« Je suis venu d'abord pour vous avertir de ne point me prêter d'argent, parce que je ne manquerai pas de vous en demander. »
« Bien. Vous avez l'intention de payer ici ?»«
Oui.
Moi pas, merci. Je demeure ici près de chez vous. Ma porte est la première à droite, vous l'avez vue. Tâchez de ne pas venir chez moi trop souvent. Je viendrai chez vous, soyez tranquille. Vous avez vu le général ?»«
Non.
Et vous ne l'avez pas entendu ?»«
Pas davantage. »«
Eh bien, vous le verrez et vous l'entendrez. » Même à moi, il demande de l'argent à prêter. Avis au lecteur. Adieu. Est-ce qu'on peut vivre quand on s'appelle Ferdichtchenko ?
Pourquoi pas ?
Adieu.
Et il se dirigea vers la porte. Le prince sut plus tard que ce monsieur considérait en quelque sorte comme un devoir pour lui d'étonner tout le monde par son originalité et son enjouement. Malheureusement, il n'y réussissait jamais. Sur certains, il produisait même une impression désagréable, ce qui le désolait sincèrement, sans toutefois lui faire abandonner sa tâche. Au moment où il allait sortir, le hasard lui procura une petite revanche. Près de la porte, il heurta un monsieur qui entrait et que le prince ne connaissait pas. Ferdichtchenko se rangea pour laisser passer le nouveau venu et, tandis que ce dernier pénétrait dans la chambre, il cligna les yeux derrière lui à plusieurs reprises en manière d'avertissement. Après quoi, il se retira satisfait. Le nouvel arrivant était un homme de haute taille et de belle corpulence qui paraissait avoir 55 ans au moins. Ses yeux étaient grands et un peu à fleur de tête. D'épais favoris blancs encadraient son visage charnu, flasque et d'un rouge vif. Il avait aussi des moustaches. Sans un je ne sais quoi de fatigué, de flétri, d'avachi même, qui se remarquait dans toute sa personne, l'extérieur de ce monsieur aurait été assez imposant. Il portait une vieille redingote, plus ou moins trouée au coude, et son linge était loin d'être propre. En s'approchant de lui, on pouvait s'apercevoir qu'il sentait l'eau-de-vie, mais ses manières, d'une distinction un peu étudiée, trahissaient l'innocent désir de frapper par un grand air de dignité. Lentement, le sourire aux lèvres, ce visiteur s'avança vers le prince, lui prit la main sans rien dire et la garda dans la sienne. En même temps, il considérait avec attention le visage de Mushkin, comme pour y retrouver des traits connus.
« C'est lui ! « C'est lui !» fit-il d'un ton solennel, mais sans élever la voix. « Il me semble le revoir vivant. J'ai entendu prononcer à plusieurs reprises un nom connu, un nom cher, et je me suis rappelé un passé à jamais évanoui. Le prince Mushkin !»
Lui-même.
« Le général Ivolgin, démissionnaire et malheureux. Oserais-je vous demander votre prénom et celui de votre père ?»
Léon Nikolaïevitch.
C'est cela, c'est cela. Le fils de mon ami, je puis dire, de mon camarade d'enfance, Nicolas Petrovitch. Mon père s'appelait Nicolas Lvovitch.
Lvovitch, se rectifia le général. Mais il fit cela sans se hâter et avec une assurance parfaite, comme un homme dont la mémoire n'est nullement en défaut et qui a commis un simple lapsus linguae. Il s'assit, et prenant aussi le prince par le bras, l'obligea à s'asseoir à côté de lui.
« Je vous ai porté sur mes bras. »«
Est-ce possible ?
demanda Mushkine. Il y a déjà 20 ans que mon père est mort.
Oui, 20 ans, 20 ans et 3 mois. Nous avons fait nos études ensemble. Aussitôt après avoir terminé mon éducation, je suis entrée au service militaire.
Mon père a servi aussi dans l'armée. Il était sous-lieutenant dans le régime Vasilkovski.
Bielomirski. Il a passé dans ce régiment presque la veille de sa mort. J'étais là, et je lui ai rendu les derniers devoirs. Votre mère...
Le général s'arrêta, comme pour laisser se calmer l'émotion qu'un triste souvenir éveillait en lui.
Mais elle est morte 6 mois après. Elle a été enlevée par un refroidissement, dit le prince.
Pas par un refroidissement, croyez-en un vieillard. J'étais là, et je l'ai aussi enterrée. Ce qui l'a tué, ce n'est pas un refroidissement, mais le chagrin d'avoir perdu son prince.
Oui, je me souviens aussi de la princesse. Ce que c'est que d'être jeune. Pour elle, le prince et moi, qui étions 2 amis d'enfance, nous avons failli nous égorger.
Mushkine commençait à écouter avec un certain scepticisme.
Je fus passionnément amoureux de votre mère avant son mariage, lorsqu'elle était fiancée à mon ami. Celui-ci le remarqua et en fut bouleversé. Il arrive chez moi un matin avant 7 heures et m'éveille. Je m'habille, me demandant ce que cela signifie. Silence de part des autres. Je comprends tout. Le prince sort de sa poche 2 pistolets. Il est convenu que nous nous battrons séparés par un mouchoir, sans témoin. À quoi bon des témoins, quand dans 5 minutes nous devons nous envoyer l'un l'autre à de patresse. Les armes sont chargées, le mouchoir est étendu, et chacun de nous, regardant l'autre en plein visage, lui applique son pistolet sur la poitrine. Soudain, de grosses larmes jaillissent de nos yeux, nos mains tremblent, chez tous deux à la fois. Alors, naturellement, nous nous jetons dans les bras l'un de l'autre, et entre nous s'engage un combat de générosité.
« Elle est à toi !» s'écrie le prince. « Elle est à toi !» m'écriai-je à mon tour.
« En un mot, vous êtes venu loger chez nous ?»«
Oui, pour quelque temps, peut-être, » répondit le prince d'une voix un peu hésitante.
« Prince, maman vous demande !»
cria Kolia en entr'ouvrant la porte. Mushkine se levait pour sortir quand le général lui mit la main sur l'épaule et l'obligea, par une douce violence, à se rasseoir.
« Comme véritable ami de votre père, je désire vous prévenir, » poursuivit le vieillard. « Vous le voyez vous-même, j'ai souffert, par suite d'une catastrophe tragique.
Mais sans jugement, sans jugement. Nina Alexandrovna est une femme rare. Barbara Ardalionovna, ma fille, est une fille rare. Les circonstances nous forcent à louer des chambres. C'est une chute inouïe, moi qui étais en passe de devenir gouverneur général. Mais nous sommes toujours bien aises de vous avoir. Et pourtant, il y a une tragédie dans ma maison. »
À ces mots, le prince considéra son interlocuteur avec une curiosité plus marquée.
« Il se prépare un mariage, et un mariage rare, le mariage d'une femme équivoque et d'un jeune homme qui pourrait être gentilhomme de la chambre. On introduira cette femme dans la maison où habitent mon épouse et ma fille. Mais tant que j'aurai un souffle de vie, elle n'y entrera pas. Je me coucherai en travers de la porte, et il faudra qu'elle me passe sur le corps. À présent, je ne parle presque plus à Gania. J'évite même de me rencontrer avec lui. » Je vous préviens exprès. Du reste, ce que je vous dis, vous le verrez vous-même, puisque vous allez demeurer chez nous. Mais vous êtes le fils de mon ami, et je suis en droit d'espérer...
Prince, veuillez, je vous prie, venir un instant au salon avec moi. »
interrompit Nina Alexandrovna, se montrant elle-même à l'entrée de la chambre.
« Figure-toi, ma chère !» s'écria le général. « Il se trouve que jadis j'ai porté le prince sur mes bras. »
La vieille dame lança à son mari un coup d'œil sévère et fixa ensuite sur le prince un regard scrutateur, mais elle ne proféra pas un mot. Mushkine la suivit.
Tous deux se rendirent au salon. Et quand ils furent assis, Nina Alexandrovna se hâta d'engager, avec son locataire, une conversation à demi-voix. Mais à peine avait-elle commencé à parler que le général entra brusquement dans la chambre. Nina Alexandrovna se tut aussitôt et, avec un dépit visible, se pencha sur son ouvrage. Le général remarqua peut-être le mécontentement de sa femme. Quoi qu'il en fût, il ne s'en affecta nullement. « Le fils de mon ami !» cria-t-il en s'adressant à Nina Alexandrovna. « Et cette rencontre est si inattendue ! Depuis longtemps, j'avais même cessé de croire la chose possible. Mais, ma chère, se peut-il que tu ne te souviennes pas de feu Nicolas Lvovitch ? Tu l'as encore trouvé, à Tver.
Je ne me souviens pas de Nicolas Lvovitch. C'est votre père ? Demanda-t-elle au prince.
Oui, mais à ce qu'il paraît, il est mort à Elisabethgrad et non à Tver, observa timidement le prince.
Je le tiens de Pavlitchev.
À Tver, soutint le général. Il a été transféré dans cette ville peu de temps avant sa mort. Et même sa maladie ne faisait alors que commencer. Le voyage n'a pas pu laisser de traces dans votre mémoire. Vous étiez encore si petit quand il a eu lieu. Pavlitchev a pu se tromper, quoique ce fût un homme du plus grand mérite.
Vous avez aussi connu Pavlitchev ?
C'était un homme rare, mais mon attestation est celle d'un témoin oculaire. J'ai béni sur son lit de mort.
Mon père allait passer en jugement quand il est mort, reprit le prince, quoique je n'ai jamais pu savoir de quoi il était accusé. Il est décédé à l'hôpital.
Oh, c'était pour l'affaire du soldat Kolpakov, et sans doute le prince aurait été acquitté.
Oui, vous savez positivement cela ? Demanda le prince, dont la curiosité avait été vivement excitée par les dernières paroles du général.
« Je crois bien !» s'écria celui-ci. « Le conseil de guerre s'est dissous sans avoir rien décidé. C'est une affaire impossible, une affaire mystérieuse même, on peut le dire. Le capitaine en second, Larionov, commandant de la compagnie, vient à mourir. L'emploi du défunt est momentanément confié au prince. Bien. Le soldat Kolpakov commet un larcin au préjudice d'un de ses camarades. Il vole du cuir pour le vendre et boire ensuite l'argent. Bien. Le prince, notez que cela a eu lieu en présence d'un sergent-major et d'un caporal. Le prince tense vertement Kolpakov et le menace des verges. Très bien. Kolpakov va à la caserne, se couche sur un lit de camp et, un quart d'heure après, il meurt. Parfait. Mais c'est un gars étrange, presque impossible. N'importe, on enterre Kolpakov. Le prince fait son rapport, puis le défunt est rayé des contrôles. Rien de mieux, n'est-ce pas? Mais juste 6 mois après, quand on inspecte la brigade, le soldat Kolpakov, comme si de rien n'était, est retrouvé dans la 3e compagnie du 2e bataillon du régiment d'infanterie Novozemlyansky, appartenant à la même brigade et à la même division.
« Comment ? » fit le prince au comble de l'étonnement.
« Cela ne s'est pas passé ainsi, c'est une erreur !» lui dit soudain Nina Alexandrovna en le regardant avec une sorte d'anxiété.
« Mon mari se trompe » ajouta-t-elle en français.
« Ma chère, se trompe, c'est facile à dire, mais résous-toi-même un cas pareil. Tout le monde y a perdu son latin. » Je serai le premier à dire qu'on se trompe. Mais par malheur, j'ai été témoin du fait, et j'ai moi-même fait partie de la commission. Toutes les confrontations ont prouvé que c'était bien lui, que c'était ce même soldat Kolpakov, enterré 6 mois auparavant, avec le cérémonial accoutumé et au son du tambour.
Certes, le cas est rare, presque impossible, je le reconnais, mais...
Papa, votre dîner est servi. Vint annoncer Barbara Ardalionovna. « Ah, c'est très bien, parfait. Je mourrai de faim.
mais le cas, on peut le dire, est même psychologique.
Le potage va encore se refroidir, gronda Varia.
Tout de suite, murmura le général en sortant de la chambre.
Et on a eu beau multiplier les enquêtes,
acheva-t-il dans le corridor.
Et il vous faudra pardonner bien des choses à Ardalion Alexandrovitch si vous restez chez nous,
dit Nina Alexandrovna au prince.
Du reste, il ne vous dérangera pas beaucoup, il dîne même seul. Vous en conviendrez, vous-même, chacun a ses défauts et ses travers particuliers. Les gens qu'on a coutume de montrer au doigt en ont peut-être encore moins que d'autres.
J'ai une prière à vous adresser. Si mon mari vous demandait le loyer de votre chambre, dites-lui que vous m'avez remis l'argent. Bien entendu, que vous régliez avec Ardalion Alexandrovitch ou avec moi, c'est la même chose pour vous, mais je vous demande cela seulement pour la bonne règle.
Qu'est-ce qu'il y a, Varia ?
Varia rentra dans la chambre et présenta silencieusement à sa mère le portrait de Nastasia Philipovna. La vieille dame frissonna et pendant quelque temps considéra la photographie, d'abord avec effroi, puis avec une sensation de douleur amère. À la fin, elle leva les yeux sur Varia, comme pour solliciter une explication.
« Elle-même lui en a fait cadeau aujourd'hui, » dit la jeune fille,
« et ce soir, tout sera décidé pour eux. »«
Ce soir ?»
répéta à demi-voix Nina Alexandrovna avec un accent désespéré.
« Pourquoi ?» Dès maintenant, il n'y a plus de doute et il ne reste non plus aucune espérance. Le don de ce portrait est un indice suffisamment clair. Et c'est lui-même qui t'a montré cela ?
Ajouta-t-elle d'un air surpris.
Vous savez que depuis un grand mois, nous ne nous parlons presque plus. J'ai tout su par petite Zine. Quant au portrait, il traînait là à terre près de la table, je l'ai ramassé.
Prince ! Dit tout à coup Nina Alexandrovna à son locataire. « Je voulais vous poser une question.
C'est pour cela, surtout, que je vous ai prié de venir ici.
Y a-t-il longtemps que vous connaissez mon fils ? Il a dit, je crois, que vous étiez arrivé aujourd'hui seulement de l'étranger. » Le prince donna sur lui-même quelques explications très sommaires, dont les deux dames ne perdirent pas un mot.
Veuillez être persuadé qu'en vous interrogeant, je ne cherche pas à connaître les affaires de Gabriel Ardalionovitch,
observa Nina Alexandrovna.
Et s'il y a des choses que lui-même ne peut m'avouer, moi, de mon côté, je ne veux pas les apprendre d'une autre bouche. Seulement, vous savez ce que Gania a dit tantôt en votre présence. Quand ensuite vous êtes sorti et que je l'ai questionné sur votre compte, il m'a répondu
« Il sait tout, il n'y a pas à se gêner. »«
Qu'est-ce que cela signifie ? » ?»« C'est-à-dire que je voudrais savoir dans quelle mesure... »
Gania et Ptitsine entrèrent tout à coup. Nina Alexandrovna s'interrompit immédiatement. Le prince resta assis auprès d'elle, mais Varia se retira à l'écart. Le portrait de Nastasia Philipovna reposait, parfaitement en évidence, sur la petite table à ouvrage de Nina Alexandrovna, juste sous les yeux de la vieille dame. À sa vue, la mine de Gania se renfrogna. Il le prit avec colère et le lança sur son bureau, qui se trouvait à l'autre bout de la chambre.
« C'est aujourd'hui, Gania ?»
demanda brusquement Nina Alexandrovna. Le jeune homme tressaillit.
« Quoi, aujourd'hui ? »
fit-il. Et tout à coup, il s'emporta contre le prince.
« Ah, je comprends, vous êtes ici. Mais c'est donc une maladie chez vous. Vous ne pouvez pas retenir votre langue. Comprenez donc, enfin, Altesse. »
« Ici, la faute est à moi, Gania, et à moi seule. »
interrompit Ptitsine. Gania le regarda avec étonnement.
« Mais, voyons, cela vaut mieux, Gania, d'autant plus que, d'un côté, l'affaire est finie. »
marmotta entre ses dents Ptitsine. Puis il alla s'asseoir près d'une table à l'écart et, tirant de sa poche un morceau de papier couvert d'une écriture tracée au crayon, il se mit à l'examiner attentivement.
Gania,
toujours sombre, attendait avec inquiétude une scène de famille. Il ne pensa même pas à faire des excuses au prince.
« Si tout est fini, assurément, Ivan Petrovitch a bien fait, » dit Nina Alexandrovna.
« Ne fronce pas le sourcil, je te prie, et ne te fâche pas, Gania. Je m'abstiendrai de toute question sur ce que toi-même tu ne veux pas dire, et je t'assure que je me suis complètement soumise. Sois tranquille, je t'en prie. »
Elle prononça ces mots sans interrompre son ouvrage et d'un ton qui semblait fort calme. Gania fut surpris, mais par prudence, il se tut, et, les yeux fixés sur sa mère, attendit qu'elle s'expliquât plus nettement. Les querelles domestiques lui étaient fort désagréables. Nina Alexandrovna remarqua la circonspection de son fils et ajouta avec un sourire amer.
« Tu n'es pas encore rassurée et tu ne me crois pas. Sois sans inquiétude. Il n'y aura, de mon côté du moins, ni larmes ni prières, comme autrefois. Tout mon désir est que tu sois heureux, et tu le sais. Je me suis soumise à la destinée, mais mon cœur sera toujours avec toi, soit que nous restions ensemble, soit que nous nous séparions. Naturellement, je ne réponds que pour moi. Tu ne peux pas exiger la même chose de ta sœur. »
« Ah, encore elle !» s'écria Gania en lançant un regard fielleux à Barbara Ardalionovna.
« Maman, je vous l'ai déjà juré et je vous en donne de nouveau ma parole. Nul n'osera jamais vous manquer, aussi longtemps que je serai là, aussi longtemps que je vivrai. Quelques personnes qui franchissent notre seuil, je réclamerai d'elles le plus entier respect pour vous. »
La satisfaction de Gania était telle qu'il regardait sa mère d'un air presque apaisé, presque tendre.
« Je ne craignais rien pour moi, Gania, tu le sais. Ce n'est pas à mon sujet que j'ai été inquiète et tourmentée tous ces temps-ci. On dit qu'aujourd'hui tout va être terminé pour vous. Qu'est-ce donc qui sera terminé ?»
Elle a promis de déclarer ce soir, chez elle, si elle consent, oui ou non, répondit Gania.
Depuis près de 3 semaines, nous évitions ce sujet d'entretien, et cela valait mieux. Maintenant que tout est fini, je me permettrai seulement de t'adresser une question. Comment a-t-elle pu agréer la recherche et même te faire cadeau de ce portrait quand tu ne l'aimes pas? Est-il possible qu'elle, si expérimentée, n'est-ce pas? Ce n'est pas ainsi que je voulais m'exprimer. Comment se fait-il que tu aies pu l'abuser à ce point sur tes sentiments? »
Dans ces paroles perçait une irritation aussi soudaine que violente. Après un moment de réflexion, Gania répliqua d'un ton franchement sarcastique.
« Cette fois encore, maman, vous n'avez pas su vous contenir. La patience vous a échappé. C'est ainsi qu'ont toujours commencé toutes les querelles entre nous. Vous vous aviez promis de m'épargner toute interrogation, tout reproche. Et voilà que vous vous oubliez déjà votre promesse. Nous ferons mieux de laisser cela. Oui, mieux vaut n'en plus parler. Du moins, votre intention était bonne. Jamais, pour rien au monde, je ne vous quitterai. Un autre, à ma place, fuirait du moins une pareille sœur. Voyez comme elle me regarde à présent. Restons-en là. J'étais déjà si content. Et qui vous dit que je trompe Nastasia Philipovna? Quant à Varia, elle fera comme il lui plaira. En voilà assez. Allons, il est plus que temps d'en finir. »
À mesure qu'il parlait, Gania s'échauffait davantage. Obéissant à un inconscient besoin d'activité, il marchait à grands pas dans la chambre. Chaque fois que cette question délicate était mise sur le tapis, la conversation tournait aussitôt à l'aigre.
« J'ai dit que si elle entrait ici, j'en sortirais. « Et je tiendrai parole, » déclara Varia. « Par entêtement !» vociféra Gania. « C'est aussi par entêtement que tu ne te maries pas. Pourquoi as-tu l'air de me narguer? Je me moque bien de cela, Barbara Ardalionovna. Vous pouvez même, si le cœur vous en dit, mettre votre projet à exécution séance tenante. Ce sera un fameux débarras pour moi. Comment? Vous vous décidez enfin à nous laisser, prince ?»
cria-t-il à Mushkin, voyant que celui-ci se disposait à sortir.
comme l'indiquait le son de sa voix, Gania en était arrivé à ce degré d'irritation où l'homme, se complaisant pour ainsi dire dans sa colère, s'y abandonne sans aucune retenue et avec une satisfaction croissante, quelles qu'en doivent être les conséquences. Le prince, qui était déjà près de la porte, se retourna pour répondre. Mais le visage affolé de son insulteur lui prouva qu'il ne manquait plus que cette goutte pour faire déborder le vase. Aussi crut-il devoir se retirer sans rien dire. Lui parti, la discussion reprit son cours, plus bruyante et plus animée que jamais. Pour regagner sa chambre, le prince devait traverser la salle, puis la pièce d'entrée, et ensuite s'engager dans le corridor. Arrivé dans l'antichambre, il s'aperçut, en passant devant la porte de sortie, que quelqu'un faisait tous ses efforts pour sonner. Mais assurément, il était survenu un accident à la sonnette, car elle s'agitait sans rendre aucun son. Le prince ôta le verrou, ouvrit la porte et recula d'étonnement. Un frisson même parcourut tous ses membres. Devant lui se trouvait Nastasia Philipovna. Il la reconnut immédiatement d'après son portrait. À la vue de Mouichkine, la colère étincela dans les yeux de la visiteuse. Elle entra vivement dans l'antichambre en poussant le prince d'un coup d'épaule et dit d'une voix irritée tandis qu'elle se débarrassait de sa pelisse. « Si tu es trop paresseux pour raccommoder la sonnette, tu devrais du moins rester dans l'antichambre pour ouvrir quand on frappe. Allons, voilà que maintenant il a laissé tomber ma pelisse. Quel lourdeau !» La pelisse, en effet, était par terre. Nastasia Philipovna, au lieu d'attendre qu'on la lui ôtât, s'en était dépouillée elle-même, puis, sans regarder, l'avait jetée derrière elle au prince, qui n'avait pas su la saisir au vol. « Tu mérites d'être mise à la porte. Va m'annoncer. » Le prince voulut parler, mais son trouble était tel qu'il ne put proférer un mot. Tenant toujours dans ses mains la pelisse qu'il venait de ramasser, il se dirigea vers le salon. « Eh bien, voilà qu'à présent il s'en va avec la pelisse. Pourquoi emportes-tu la pelisse? Mais tu es fou, sans doute !» Le prince revint sur ses pas et regarda Nastasia Philipovna avec stupéfaction. En la voyant rire, il sourit lui-même, mais sa langue restait toujours comme collée à son palais. Au moment où il avait ouvert la porte à la jeune femme, il était devenu pâle. Maintenant, le sang lui montait tout à coup au visage. « Mais qu'est-ce que c'est que cet idiot ? » cria-t-elle en trépignant de colère. « Eh bien, où vas-tu ? Qui donc annonceras-tu ? »
« Nastasia Philipovna ? » balbutia le prince.
« Comment me connais-tu ? » lui demanda-t-elle vivement. « Je ne t'ai jamais tant vu qu'aujourd'hui. Va m'annoncer. Pourquoi crie-t-on là ? » ?»«
Ils se disputent, » répondit le prince, et il se rendit au salon. Au moment où il y entra, les choses menaçaient de prendre une mauvaise tournure. Nina Alexandrovna était sur le point d'oublier complètement qu'elle s'était soumise à tout. Du reste, elle défendait Varia. Ptitsine, qui avait remis son papier dans sa poche, se tenait aussi du côté de la jeune fille. Celle-ci, dont la timidité n'était pas le défaut, recevait d'ailleurs sans sourciller les grossièretés de plus en plus brutales de son frère. D'ordinaire, en pareil cas, elle se taisait et se contentait de fixer Gania d'un air moqueur. Elle savait que la persistance de ce regard avait le don de l'exaspérer. Telle était la situation lorsque le prince, entrant dans la chambre, annonça « Nastasia Philipovna ». Chapitre 9. Un silence général suivit ces mots. Tous regardèrent le prince comme s'ils ne le comprenaient pas et désiraient ne pas le comprendre. La frayeur avait cloué Gania à sa place. La visite de Nastasia Philipovna, dans les circonstances présentes surtout,
constituait pour tout le monde l'événement le plus étrange, le plus inattendu et le plus inquiétant. D'abord, c'était la première fois que cette personne venait chez les Ivolgin. Jusqu'alors, elle s'était montrée tellement dédaigneuse à leur égard que même, en causant avec Gania, elle n'avait jamais manifesté le désir de faire leur connaissance. Depuis quelque temps, elle ne parlait pas plus d'eux que s'ils n'avaient pas existé. En un sens, Gania était bien aise qu'elle évitât un sujet d'entretien si scabreux pour lui. Mais, au fond de son cœur, il conservait une amère rancune de cette indifférence méprisante. En tout cas, il croyait Nastasia Philipovna beaucoup plus disposée à se moquer de ses parents qu'à leur faire une politesse. Elle était au courant, il le savait très bien, de tout ce qui se passait chez lui depuis qu'il avait demandé sa main, et elle n'ignorait pas de quel œil la famille Ivolgin la considérait. En ce moment, c'est-à-dire après le don du portrait et quelques heures avant la soirée où elle avait promis de décider du sort de Gania, la visite de la jeune femme semblait avoir une signification facile à comprendre. Le doute qui se lisait dans tous les yeux fixés sur le prince ne dura pas longtemps. Nastasia Philipovna apparut elle-même à l'entrée du salon. Et cette fois encore, en pénétrant dans la chambre, elle poussa légèrement le prince. « Enfin, j'ai réussi à entrer. Pourquoi y a-t-il une sonnette chez vous ? » dit-elle gaiement en tendant la main à Gania, qui s'était aussitôt élancée vers elle. « Quelle mine stupéfaite vous avez ! Présentez-moi donc, je vous prie. » Le jeune homme, ahuri, la présenta d'abord à Varia. Les deux femmes, avant de se tendre la main, échangèrent des regards étranges. Nastasia Philipovna, du reste, riait et affectait l'enjouement. Mais Varia ne se donna pas la peine de feindre. Longuement, d'un air sombre, elle considéra la visiteuse, sans que son visage offrît la moindre trace du sourire obligé en pareille circonstance. Gania se sentit défaillir. Ce n'était pas le moment de supplier. Il lança à sa sœur un coup d'œil si menaçant que la jeune fille comprit à l'instant même de quelle importance était pour son frère la présente minute. En conséquence, elle se décida à être plus aimable, et ses lèvres ébauchèrent une sorte de sourire à l'adresse de Nastasia Philipovna. Tous les membres de la famille avaient encore beaucoup d'attachement les uns pour les autres. Après avoir présenté Nastasia Philipovna à sa sœur, Gania la présenta à sa mère, ou plutôt lui présenta sa mère, car dans son trouble, le jeune homme ne savait plus ce qu'il faisait. Nina Alexandrovna fut fort convenable, mais à peine commençait-elle à parler du plaisir particulier avec lequel, etc., que la visiteuse, sans l'écouter, interpella tout à coup Gania. En même temps, bien qu'on ne l'eût pas encore invitée à prendre un siège, elle s'assit sur un petit divan, dans le coin près de la fenêtre. « Où est donc votre cabinet ? » cria-t-elle. « Et où sont les locataires ? Vous louez des chambres, n'est-ce pas ? » Gania devint cramoisie et bégaya une réponse inintelligible. « Où peut-on donc mettre des locataires ? Vous n'avez pas même de cabinet ? » reprit Nastasia Philipovna. « Et c'est un bon rapport ? » demanda-t-elle brusquement à Nina Alexandrovna. Pour qu'on se donne cet embarras, il faut naturellement que cela rapporte quelque chose, répondit la vieille dame. Du reste, nous voulons seulement de... Mais Nastasia Philipovna semblait décidée à ne pas l'écouter. Elle jeta les yeux sur Gania, se mit à rire et lui cria. Quel visage vous avez ! Oh, mon Dieu ! Quelle tête vous faites en ce moment ! Cette hilarité dura quelques instants. Le fait est que Gania ne se ressemblait plus à lui-même. Sa stupéfaction, son effarement comique avaient disparu tout à coup, mais il était affreusement pâle et des contractions crispaient ses lèvres. Silencieux, il tenait ses yeux fixés avec une expression sinistre sur la jeune femme, qui continuait à rire.
le prince n'avait pas encore pu secouer l'espèce de catalepsie qui s'était emparée de lui à la vue de Nastassia Philippovna. Il était resté comme pétrifié à l'entrée du salon. Cependant, la pâleur et l'altération du visage de Gania ne laissèrent pas de le frapper. Par un mouvement dont il ne fut pas le maître, il s'avança soudain vers le jeune homme.
« Buvez de l'eau, » lui dit-il tout bas. « Et ne regardez pas ainsi. »
Évidemment, il ne fallait chercher aucun sous-entendu, aucune arrière-pensée dans ses paroles. Elles avaient jailli spontanément de la bouche du prince, sans qu'il y attachât un sens particulier. Néanmoins, elles produisirent un effet extraordinaire. Il semblait que toute la colère de Gania se fût subitement reportée sur Mushkin. Il le saisit par l'épaule et, silencieusement, comme s'il eût été hors d'état de proférer un mot, darda sur lui un regard chargé de haine et de rancune. Ce fut un émoi général dans le salon. Nina Alexandrovna poussa même un léger cri. Tzine, inquiet, s'avança vivement vers les deux hommes. Kolia et Ferditchenko, qui allaient entrer, s'arrêtèrent stupéfaits. Varia, seule, resta impassible. Debout, un peu à l'écart, les bras croisés sur sa poitrine, la jeune fille continuait à tout observer du coin de l'œil. Mais, en moins d'un instant, Gania recouvra la possession de lui-même. Son emportement fit place à un rire nerveux.
« Mais que dites-vous, prince ? Il faudrait appeler un médecin, n'est-ce pas ? »
s'écria-t-il avec autant de gaieté et de bonhomie que possible.
« Il m'a même fait peur !
Nastassia Philippovna, on peut vous le présenter. C'est un type inappréciable, quoique moi-même je ne le connaisse que depuis ce matin. » Nastassia Philippovna regarda Mushkin d'un air ébahi.
« Prince ? Il est prince ? Figurez-vous, tout à l'heure, dans l'antichambre, je l'ai pris pour un laquais et je lui ai ordonné d'aller m'annoncer.
« N'y a pas de mal, n'y a pas de mal !» dit Ferditchenko, qui, bien aise de voir que l'on commençait à rire, s'empressa de se mêler à la société.
« Ça ne fait rien, c'est non et vero. »
« Et qui plus est, je crois bien vous avoir brutalisé, prince !»«
Pardonnez-moi, je vous prie. »«
Ferditchenko, comment êtes-vous ici à pareille heure ? Je pensais du moins ne pas vous trouver. »
Quel prince ?
Mushkin ? Demanda-t-elle à Gania, qui, tenant toujours le prince par l'épaule, venait d'achever la présentation.
Il loge chez nous, répéta le jeune homme.
Il était clair qu'on faisait jouer au prince le rôle de bête curieuse. Sa présence fournissait un moyen de sortir d'une situation fausse, et on le jetait, pour ainsi dire, à la tête de Nastassia Philippovna. Il perçut même distinctement le mot « idiot » murmuré derrière lui, probablement par Ferditchenko, pour l'édification de la visiteuse.
« Dites-moi, pourquoi donc m'avez-vous laissé dans l'erreur tantôt, quand je me suis si terriblement trompée sur votre compte ?»
reprit Nastassia Philippovna en examinant le prince des pieds à la tête avec le sans-gêne le plus cavalier. Puis elle attendit impatiemment la réponse, présumant que celle-ci allait égayer tout le monde par sa bêtise.
« J'ai été surpris en vous apercevant ainsi tout d'un coup, » balbutia le prince.
« Mais comment m'avez-vous reconnu ? Où m'aviez-vous vu auparavant ? Au fait, il me semble l'avoir vu quelque part. Et permettez-moi de vous demander pourquoi tout à l'heure vous êtes resté cloué sur place. Qu'y a-t-il de si stupéfiant en moi ?
Allons donc, allons ! Fit plaisamment Ferditchenko. Mais allons donc ! Oh, Seigneur, si c'était moi, que de choses je répondrais à une pareille question ! Mais allons donc ! Vraiment, prince, il faut que tu sois joliment godiche !
Mushkin se mit à rire. Moi aussi, à votre place, je dirais bien des choses, répondit-il à Ferditchenko. « Tantôt, votre portrait m'a beaucoup frappé, » ajouta-t-il en s'adressant à Nastassia Philippovna.
Ensuite, j'ai causé de vous avec les Epanchines. Et déjà ce matin, avant d'arriver à Pétersbourg, je m'étais trouvé dans le train avec Parfen Rogojine, qui m'avait longuement parlé de vous. Au moment même où je vous ai ouvert la porte, je pensais à vous, et tout d'un coup, vous m'êtes apparu.
Mais comment donc avez-vous su que c'était moi ?
Parce que je connaissais votre portrait, et...
Et quoi encore ?
Et parce que vous répondez de tout point à l'idée que je m'étais faite de vous. Il me semble aussi vous avoir vu quelque part.
Où ? Où ?
Je dois avoir déjà vu vos yeux quelque part. Mais c'est impossible. J'ai dit cela sans y faire attention. Je n'ai même jamais habité à Pétersbourg. Peut-être en songe.
Ah, ça, prince !
Cria Ferdichenko.
Non, je retire mon mot, c'est non et vero. Du reste, il dit tout cela sans y entendre malice,
ajouta-t-il avec compassion. Le prince avait proféré ces quelques phrases d'une voix inquiète, entrecoupée, comme quelqu'un à qui le souffle manque. Tout en lui dénotait une agitation extraordinaire. Nastassia Philippovna le considérait avec curiosité, mais elle ne riait plus. Soudain, derrière le cercle qui s'était formé autour du prince et de la jeune femme, se fit entendre une voix sonore. Le groupe s'entr'ouvrit pour laisser passer le père de famille lui-même, le général Ivolgin. Il était en frac, et sur sa poitrine s'étalait un plastron d'une propreté irréprochable. Ses moustaches étaient teintes. L'apparition d'Ardalion Alexandrovitch porta un coup terrible à Gania. Ce vaniteux jeune homme, dont l'amour-propre souffrant confinait à l'hypocondrie, avait dû avaler bien des couleuvres depuis 2 mois. Et voilà qu'une dernière humiliation, la plus cruelle de toutes, lui était réservée. Il fallait qu'il connût le supplice de rougir des siens, chez lui, dans sa propre maison. Une pensée traversa alors son esprit. Mais enfin, le jeu en vaut-il la chandelle ? En ce moment, se produisait un fait dont, durant ces 2 mois, la simple possibilité, entrevue à l'état de cauchemar dans le silence de ces nuits, le glaçait de terreur, l'affolait de honte. Enfin avait lieu la rencontre de son père avec Nastassia Philippovna. Parfois, se roidissant contre lui-même, il avait essayé de se représenter le général pendant la cérémonie nuptiale, et jamais il n'avait eu la force, tant ce tableau lui répugnait. On trouvera peut-être que Gagnas exagérait beaucoup les choses, mais c'est toujours ce qui arrive aux gens vaniteux. Après avoir longuement réfléchi à cela, il s'était juré qu'à tout prix il ferait momentanément disparaître son père. Si c'était possible, il l'éloignerait même de Pétersbourg, que Nina Alexandrovna y consentît ou non. 10 minutes auparavant, lorsque Nastassia Philippovna était entrée, Gania, dans son trouble, avait complètement oublié que le général pouvait se montrer au salon. Aussi n'avait-il pris aucune mesure en prévision de cet événement. Et voilà qu'Ardalion Alexandrovitch apparaissait devant tout le monde. Bien plus, il s'était mis en habit, il faisait une entrée triomphale, et cela au moment même où Nastassia Philippovna ne cherchait qu'une occasion pour accabler de sarcasme Gania et ses proches. Le jeune homme en était persuadé. Quel sens, en effet, pouvait avoir sa visite, sinon celui-là ? Était-elle venue chez lui pour faire des avances à sa mère et à sa sœur ou pour les blesser ? L'attitude respective de ces dames tranchait la question. Nina Alexandrovna et sa fille étaient assises à l'écart, comme des créatures conspuées, tandis que la visiteuse semblait avoir même oublié leur présence dans la chambre. Si elle se comportait ainsi, c'est sans doute qu'elle avait son but. Ferdichenko s'empara du général et l'amena à Nastassia Philippovna. Le vieillard s'inclina en souriant devant la jeune femme. « Ardalion Alexandrovitch Ivolgin, » dit-il avec dignité. « Un vieux et malheureux soldat, père d'une famille que réjouit l'espoir de compter bientôt parmi ses membres une si charmante. » Il n'acheva pas. Ferditchenko se hâta de lui avancer une chaise sur laquelle le général se laissa choir lourdement. Après son dîner, il avait toujours les jambes un peu vacillantes. Du reste, cette circonstance ne le démonta point. Il s'assit vis-à-vis de Nastassia Philippovna et, lentement, avec une galanterie de haut goût, porta à ses lèvres les petits doigts de la visiteuse. Ardalion Alexandrovitch ne se déconcertait pas facilement. À part une certaine négligence de tenue, son extérieur était resté assez convenable, ce que lui-même savait fort bien. Autrefois, il avait vécu dans un monde très comme il faut, et il n'y avait pas plus de 2 ou 3 ans qu'il se trouvait mis à l'index de la bonne société. Depuis lors, il s'était abandonné à divers excès, mais il avait néanmoins conservé l'aisance et l'agrément de ses manières. Nastassia Philippovna parut extrêmement contente de voir Ardalion Alexandrovitch, que sans doute elle connaissait déjà de réputation. « J'ai appris que mon fils... » commença-t-il. « Oui, votre fils, vous êtes encore gentil aussi, vous, papa. Pourquoi ne vous voit-on jamais chez moi? Est-ce vous-même qui vous cachez ou votre fils qui vous cache? Vous pouvez venir chez moi sans compromettre personne. » Les enfants du 19e siècle et leurs parents, voulut expliquer le général. Nastassia Philippovna, souffrez, je vous prie, car Ardalion Alexandrovitch vous quitte pour un instant. On le demande, dit à haute voix Nina Alexandrovna. Qu'il me quitte? Permettez, j'ai tant entendu parler de lui, depuis si longtemps je désirais le voir. Et quelles affaires a-t-il donc? Est-ce qu'il n'est pas en retraite? Vous ne me quitterez pas, général. Vous ne vous en irez pas. Je vous promets qu'il reviendra, mais à présent il a besoin de repos. Ardalion Alexandrovitch, on dit que vous avez besoin de repos, cria Nastassia Philippovna avec la mine mécontente et grognonne d'une petite fille capricieuse à qui on retire un jouet. Quant au général, il se prêta on ne peut plus complaisamment à la mystification. « mon ami, fit-il d'un ton de reproche en s'adressant avec solennité à sa femme et en mettant la main sur son cœur. « Vous ne vous en irez pas d'ici, maman ?» demanda d'une voix sonore Barbara Ardalionovna. « Non, Varia, je resterai jusqu'à la fin. » Nastassia Philippovna ne put pas ne pas entendre la question et la réponse, mais elle n'en devint que plus gaie, et immédiatement elle se mit à accabler de questions le général. 5 minutes après, celui-ci, fort en train, pérorait au milieu des éclats de rire de l'assistance. Kolia tira le prince par la basque de son vêtement. « Mais emmenez-le! Est-ce que cela est possible? Je vous en prie !» Et des larmes d'indignation brillaient dans les yeux du pauvre garçon. « Oh, maudit Ganka !» ajouta-t-il à part soi. Cependant, le général continuait à répondre d'abondance aux questions de Nastassia Philippovna. « J'ai été, en effet, très lié avec Ivan Fedorovitch et Panchin. Moi, lui et le feu prince Léon Nikolaïevitch Mishkin, dont j'ai embrassé aujourd'hui le fils, que je n'avais pas vu depuis 20 ans, nous étions 3 inséparables, quelque chose comme les 3 mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis. Mais hélas, l'un est dans la tombe, tué par une calomnie et par une balle, l'autre est devant vous, luttant encore contre les calomnies et les balles. « Contre les balles ? » s'écria Nastassia Philippovna. « Elles sont ici, dans ma poitrine, mais je les ai reçues au siège de Kars,
et quand le temps est mauvais, je les sens. Sous tous les autres rapports, je vis en philosophe. Je me promène, je joue aux dames à mon café, comme un bourgeois retiré des affaires, et je lis l'indépendance. Mais pour ce qui est de notre Porthos et Panchine, je n'ai plus du tout de relation avec lui depuis l'histoire qui m'est arrivée en chemin de fer il y a 3 ans, à l'occasion d'un bichon.
D'un bichon? Qu'est-ce qui s'est passé?
Demanda avec une vive curiosité la visiteuse.
Vous avez eu une histoire avec un bichon?
Permettez, et en chemin de fer? Ajouta-t-elle, comme si les paroles du général lui avaient rappelé quelque chose.
Oh, une sotte aventure, ce n'est même pas la peine de revenir là-dessus.
Au sujet de Mistress Schmidt, gouvernante chez la princesse Bielokonski, mais ce n'est pas une chose à répéter.
Si fait, racontez-la donc,
reprit gaiement Nastasia Philipovna.
Moi non plus, je n'en ai pas encore entendu parler,
observa Ferdichenko.
C'est du nouveau.
Ardalion Alexandrovitch, fit d'une voix suppliante Nina Alexandrovna.
Papa, on vous demande,
cria Kolia.
L'histoire est bête et peut se raconter en 2 mots,
commença d'un air suffisant le général.
Il y a de cela 2 ans, oui, à peu près. On venait d'inaugurer la ligne de... Ayant à faire un voyage d'une extrême importance, je prends un billet de première classe, j'étais en civil. Je monte dans le train, je m'assieds et je fume. C'est-à-dire que je continue à fumer, car j'avais allumé mon cigare avant de monter en wagon. J'étais seul dans le compartiment. Il n'est pas permis de fumer, mais cela n'est pas défendu non plus. On peut donc se croire à demi autorisé à le faire. D'ailleurs, la glace était baissée. Tout à coup, au moment où le train va partir, 2 dames, ayant avec elles un bichon, viennent s'installer juste en face de moi. L'une, vêtue très luxueusement, porte une robe bleu clair. L'autre, dont la mise est plus modeste, a une robe de soie noire avec une pèlerine. Ces voyageuses ne sont pas mal. Elles promènent autour d'elles un regard hautain et se parlent en anglais. Moi, naturellement, je continue à fumer comme si de rien n'était. C'est-à-dire que j'avais bien eu une minute d'hésitation, mais ensuite je m'étais dit « Bah, puisque la fenêtre est ouverte, la fumée ne peut pas les gêner. » Le bichon repose sur les genoux de la dame à la robe bleue. Il est tout petit, pas plus gros que mon poing, noir avec les pattes blanches. C'est même une rareté. Il a un collier d'argent avec une devise. Je fume toujours, sans m'inquiéter de mes compagnes de voyage. Je remarque seulement qu'elles paraissent fâchées. C'est sans doute mon cigare qui les met de mauvaise humeur. L'une d'elles braque sur moi un lorgnon d'écaille. Je ne m'en émeus pas, car après tout, elles ne disent rien. Si elles avaient parlé, prévenu, fait une observation quelconque, on a une langue, c'est pour s'en servir. Mais non, elles se taisent. Soudain, sans le moindre avertissement préalable, comme si elles avaient subitement perdu l'esprit, la dame à la robe bleue m'arrache mon cigare des mains et le jette par la fenêtre. Le wagon vole. Je la regarde stupéfait. C'est une femme étrange, du reste, bien en chair, grosse, grande, blonde, vermeille, trop même, ses yeux fixés sur moi lancent des éclairs. Sans proférer un mot, avec une politesse parfaite, raffinée pour ainsi dire, je m'approche du bichon, je le prends délicatement par le cou, et vlan, je l'envoie rejoindre le cigare. À peine pousse-t-il un petit cri. Le wagon vole toujours. « Vous êtes un monstre !»
s'exclama Nastasia Philipovna en riant et en battant les mains comme une petite fille.
« Bravo, bravo !» cria Ferdichenko.
Ptitsine ne put s'empêcher de sourire, quoiqu'il eût été de ceux que l'apparition du général avait vivement contrarié. Kolia lui-même accueillit aussi par des rires et des applaudissements le récit de son père.
« Et j'étais dans mon droit !»
j'avais 3 fois raison !» poursuivit avec feu le général triomphant. « Attendu que, s'il n'est pas permis de fumer en wagon, à plus forte raison, il est défendu d'y introduire des chiens. »« Bravo, papa !» cria Collier enthousiasmé. « C'est splendide. Moi aussi, certainement, j'aurais agi de même. Certainement. » « Mais la dame, comment a-t-elle pris cela ?» demanda Nastassia Philippovna, impatiente de connaître la fin de l'aventure. « Elle ? Eh bien, voilà justement où l'histoire devient vilaine !» répondit en fronçant le sourcil Ardalion Alexandrovitch. « Sans dire un mot, sans le plus petit avertissement, elle me flanque un soufflet. Une femme étrange !»« Et vous ? Qu'est-ce que vous avez fait alors ?» Le général baissa les yeux, releva les sourcils, haussa les épaules, serra les lèvres, écarta les bras, et, après un instant de silence, dit brusquement « Je n'ai pas pu me contenir !»« Et vous avez tapé fort ?»« Oh, je vous assure bien que non. Ça a été un scandale, mais je n'ai pas frappé fort. Je me suis borné à me défendre, à repousser son attaque. Malheureusement... cette affaire était un coup monté par Satan lui-même. La dame à la robe bleue se trouvait être une Anglaise, institutrice chez la princesse Bielokonski, ou amie de la maison. Et la dame en noir était l'aînée des Kniajna Bielokonski, une vieille fille de 35 ans. Or, on sait quelle intimité existe entre la générale et Panchine et cette famille. Ce sont des évanouissements, des larmes, on prend le deuil du bichon favori, les 6 Kniajna mêlent leurs gémissements à ceux de l'Anglaise, la fin du monde, quoi. Bien entendu, je suis allé exprimer mes regrets, j'ai fait des excuses, j'ai écrit une lettre, mais on n'a voulu recevoir ni moi ni ma lettre. De là est résultée ma rupture avec les Epanchine, et finalement, mon expulsion du service. « Mais permettez, comment cela se fait-il » demanda tout à coup Nastassia Philippovna. « Il y a 5 ou 6 jours, j'ai lu dans l'Indépendance, je lis régulièrement ce journal, une histoire tout à fait pareille, mais exactement la même. Cela s'était passé dans un wagon sur une ligne rhénane entre un Français et une Anglaise. Il y avait aussi un cigare arraché des mains et un bichon jeté par la portière. Enfin, le dénouement était le même que celui de votre aventure. La similitude se retrouve jusque dans la robe de la dame, qui était bleu clair aussi. » Le général devint tout rouge. Collia, non moins confus que son père, prit sa tête à 2 mains. Ptitsine se détourna par un brusque mouvement. Seul Ferditchenko continua à rire. Quant à Gania, inutile de dire que, depuis le commencement de cette conversation, il était au supplice. « Je vous assure, » balbutia Ardalion Alexandrovitch, « que la même chose m'est arrivée, à moi aussi. » Papa a eu, en effet, maille à partir avec Mistress Schmidt, l'institutrice des Bielokonski, affirma hautement Collia. « Je m'en souviens. » « Comment ? Voilà une coïncidence étrange. 2 histoires absolument identiques dans tous les détails seraient arrivées aux 2 bouts de l'Europe ?» poursuivit impitoyablement Nastassia Philippovna. « Je vous enverrai l'Indépendance belge. »« Mais notez, » répliqua le général, « que mon aventure a eu lieu 2 ans plus tôt. »« Ah ! Voilà, cela fait une différence !» reprit la visiteuse qui riait aux larmes. Papa, je désirerais vous dire 2 mots en particulier, fit Gania d'une voix tremblante, et machinalement il saisit son père par l'épaule. La haine la plus profonde se révélait dans le regard du jeune homme. Au même instant, retentit un violent coup de sonnette. On avait tiré le cordon presque à le rompre. Cela faisait deviner une visite extraordinaire. Collia courut ouvrir.